15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours, de 15h à 16h, tous les jours. Dans cette émission, on essaye de vous éclairer sur les petits et gros bobos qui vous préoccupent. Et promis, il n'y a aucun sujet tabou chez nous. Il est à mes côtés pour en parler de tous ces sujets qui ne sont pas tabous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'épilepsie. Une maladie neurologique qui concerne environ 650 000 personnes en France. 50% d'entre elles ont moins de 20 ans. Nous ferons le point sur cette pathologie et évidemment sur ses traitements avec notre invitée. Nous recevrons aujourd'hui le professeur Sophie Dupont. Elle est neurologue et présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, va décerner aujourd'hui un coup de chapeau à la veille de la journée des maladies rares. Il va nous parler de l'une d'entre elles, focus sur le syndrome d'Angelman. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de l'hépatite C, une maladie du foie causée par un virus. On fera le point sur les moyens de la prévenir et même de la guérir, car oui, actuellement, il est possible de la soigner. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de jeux coquins, de jouets sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Delphine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce que je viens de changer de chaussures, mais du coup, j'ai plein d'ampoules. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner pour les soigner correctement.
Jimmy, je ne sais pas si vous en avez souvent des ampoules, vous mettez des bonnes chaussures, ça va, tout va bien?
Ça m'arrive.
Allez, on va reprendre du début. Donc une ampoule, c'est quoi précisément au niveau cutané?
Alors une ampoule, c'est aussi appelé une cloque, ou pour les puristes, une flictaine.
Ah oui, alors ça, moi, j'ai jamais dit, mais d'accord.
Oui, mais c'est pour voilà,
les puristes,
chance,
d'accord.
Exactement. C'est un soulèvement de l'épiderme qui forme un renflement qui sera rempli d'un liquide clair. C'est un mécanisme de défense de la peau lorsqu'on a des mouvements répétés, notamment de frottement. On rappelle qu'il y a trois couches au niveau de l'épiderme qui sont superposées, de la peau pardon. On a l'épiderme qui se renouvelle en permanence, le derme, et puis plus profondément, on a l'hypoderme. Et des frottements répétés sur la peau vont être donc la cause, notamment d'irritation de la peau qui va ensuite entraîner cette petite cloque. L'épiderme devient rouge, il se sépare du derme, le liquide se forme, c'est douloureux et on a l'ampoule.
On a l'ampoule, donc on a déjà un petit peu mal. Alors ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que si cette ampoule se forme, c'est surtout en fait une espèce de réaction de protection de la peau, hein, c'est ça?
Oui, c'est la peau qui cherche à se protéger et notamment à protéger les tissus lésés sous l'ampoule. La cloque permet en effet d'éviter les pressions sur la plaie en dessous et le contact avec la saleté extérieure.
Alors on va essayer de répondre quand même au cas de Delphine. Donc ça a l'air particulièrement gênant, elle dit qu'elle en a plusieurs d'ampoules sur les pieds, donc ça doit être douloureux. Il faut dire que les ampoules, malgré tout, c'est pas grave, hein, ça guérit tout seul, non?
Oui, ça rentre souvent dans l'entour seul, mais parfois ça met un petit peu de temps et puis ça dépend du nombre d'ampoules que vous avez. Et puis si vous continuez à répéter ces mouvements de frottement, donc les chaussures trop serrées ou de taille inadaptée, bah, l'ampoule peut mettre du temps. Et puis parfois on peut avoir un petit peu de sang au niveau de cette ampoule, notamment lorsqu'un petit vaisseau se rompt. Et là, à ce moment-là, ça peut être un peu plus douloureux. Et attention, chez les diabétiques, les ampoules peuvent s'infecter un peu plus facilement que chez les autres. Donc il ne faut pas forcément négliger une ampoule.
Ok, bon, si ça s'infecte, on consulte. Mais donc dans la majorité des cas, ça spontanément, ça guérit quoi. Hein.
Exactement, il faut compter à peu près une dizaine de jours pour qu'une ampoule, une fois qu'elle s'est percée, puisse guérir de façon quasiment spontanée avec quelques petits moyens simples.
D'accord, alors justement, une petite question, on va dire un vrai faux, une question qu'on s'est tous un jour posée, est-ce qu'on la perce l'ampoule? Moi c'est vrai, j'avoue, je suis un peu tentée de mettre un coup d'aiguille là pour sortir le liquide,
ouais.
Mais je suis un peu, j'adore les boutons aussi, enfin, j'ai des trucs bizarres. Hein, mais...
Ouais, les boutons qu'on veut percer parfois, ça, certains ça les dégoûte, mais certains ça les fascine comme
l'ampoule.
Vous. En tout cas l'ampoule ça dépend. Si la cloque est toute petite et bien fermée, mieux vaut la laisser tranquille puisque finalement c'est une protection. Donc mettez éventuellement un petit pansement, parfois un pansement gras pour la cicatrisation. De nuit, laissez la plaie respirer, il est inutile de la courir. En revanche, si l'ampoule est très importante, très étendue et que c'est très douloureux, vous pouvez la percer, mais pas n'importe comment.
Alors,
vous prenez une petite aiguille.
Dites-nous, spécialiste du perçage d'ampoule.
Eh oui, une petite aiguille stérile, si vous en avez une ou si vous n'en avez pas, vous la désinfectez ou vous la faites chauffer avec une flamme éventuellement. Mm-hmm. On perce l'ampoule en un ou deux bords, simplement, on fait deux petits trous, vous n'en faites pas plus. Le liquide va s'écouler tranquillement et surtout, vous n'enlevez pas la peau morte. Cette peau morte sert d'un pansement naturel. Elle vous protège du milieu extérieur. Donc on laisse la peau morte et on évacue simplement le liquide.
Merci, on sait tout sur les ampoules grâce à vous. Allez, on passe à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Gabriel qui nous a appelé de La Rochelle. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai un fils de 14 ans et je trouve qu'il transpire beaucoup. Il dégage pas mal d'odeurs fortes et je voudrais savoir à quoi c'est dû. Est-ce que c'est ses hormones qui travaillent et que faire? Merci beaucoup, au revoir.
Alors, si l'ado de Gabriel transpire beaucoup et dégage une odeur plus forte qu'avant, je sais qu'il y a une explication physiologique, on va en parler, Jimmy. Mais d'abord, est-ce qu'on se met à transpirer tout d'un coup à l'adolescence ?
Non, on transpire de la naissance jusqu'à la fin, malheureusement. Mais c'est un mécanisme de défense naturelle physiologique qui sert notamment à réguler la température corporelle, surtout lorsqu'il fait chaud. Et donc, l'enfant de Gabriel, quand il était petit, il transpirait aussi, mais ça sentait peut-être un peu moins mauvais. Il y a un mécanisme, parce qu'à l'adolescence, il se passe des petits trucs.
Alors justement, il se passe quoi après la puberté, j'imagine, hein ? Pourquoi ça se met, par exemple, parfois, à sentir plus mauvais ?
On le sait, qui dit puberté dit chamboulement hormonal, et notamment les hormones sexuelles. Et donc à ce moment-là, on a en plus une pilosité qui s'installe. Les garçons et les filles ont des poils sous les aisselles, au niveau du pubis, un peu partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des poils et que c'est humide ?
Il y a des bactéries.
Et les bactéries prolifèrent. Et c'est elles qui peuvent déclencher les mauvaises odeurs, car n'oubliez pas que la transpiration, c'est de l'eau et du sel, et initialement, ça ne sent pas mauvais.
Donc, ils ne transpirent pas forcément plus, les ados, hein, c'est ça ?
Non, et pas spécialement. En fait, ce qui se passe, malgré tout, c'est qu'à l'adolescence, on a de nouvelles glandes sudoripares qui apparaissent. C'est les glandes apocrines. Et cette sueur apocrine, elle n'existe pas avant l'adolescence. Et donc, ça crée un peu plus de sueur et surtout un changement de l'odeur de celle-ci. Donc, c'est vrai qu'une fois que l'enfant grandit, il n'a plus cette bonne odeur de bébé ou de lait caillé. C'est vrai que ça sent un peu moins mauvais. Il est temps d'acheter donc du déodorant.
Ah bah oui, c'est ça, c'est tout. Merci pour la solution du docteur Jimmy. Alors si vous aussi, comme Gabriel qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son coup de chapeau du jour. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une association qui se bat contre une maladie rare, le syndrome d'Angelman. Et puis on accueillera aussi notre invitée, la neurologue Sophie Dupont, avec qui nous allons tout vous dire sur l'épilepsie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, la neurologue Sophie Dupont, pour parler de l'épilepsie, c'est le moment du coup de chapeau du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, alors on est à la veille donc de la journée des maladies rares et vous souhaitez faire un coup de projecteur sur le syndrome d'Angelman. C'est quoi ce syndrome ?
Alors le syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique qui est rare puisqu'elle touche en France une naissance sur 20 000, ce qui représente environ 25 nouveaux cas par an. Ce syndrome tient du nom d'un pédiatre anglais qui a découvert cette maladie dans les années 60 et ça entraîne un trouble du développement cérébral et évidemment qu'il y a un réel handicap puisqu'il provoque un retard du développement, une quasi-absence du langage oral, des troubles de l'équilibre et puis aussi une hyperexcitabilité avec un accès de rire facile. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lara, maman d'un garçon Alex qui souffre de ce syndrome d'Angelman. Son fils ne présentait aucun symptôme à la naissance. Il a fallu attendre l'âge de 3 ans et demi pour être diagnostiqué. Malgré son handicap, elle nous raconte comment son fils a pu s'intégrer à l'école.
Alex ne parle pas, il dit juste quelques mots. Papa, maman, il arrive à appeler ses grands-parents, son frère. Il s'exprime soit par des signes macatons, ce sont des signes empruntés à la langue des signes françaises, mais très simplifiés. Et il s'exprime aussi en pointant des pictogrammes, donc il y a toujours avec lui une sorte de cahier, de gros cahier avec les pictogrammes. Et donc il feuillette son cahier, il montre ce dont il veut parler. Et bien donc à la maternelle, les enfants qui étaient plus proches de lui apprenaient des signes macatons, donc pour pouvoir échanger avec lui. Et donc c'était sympa parce que les mamans à la sortie de l'école me disaient bah tiens, mon enfant fait ce signe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était assez sympathique.
Aujourd'hui, son fils a 19 ans, il se porte bien et à la grande surprise de sa maman, il est très sociable, on l'écoute à nouveau.
Par exemple, quand on prend l'ascenseur dans notre immeuble, bah, tout de suite, il veut parler aux gens qu'il voit dans l'ascenseur en leur racontant où il va, ce qu'il fait, donc toujours avec ses signes. Et je suis en fait son porte-parole, je veux dire, je traduis en mots ce qu'il signe. C'est un peu particulier.
En plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun traitement ne permet de guérir cette maladie. On ne peut uniquement traiter et soulager quelques symptômes et l'accompagnement est nécessaire.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ce coup de chapeau et donc pour aider Lara et les autres familles touchées par ce syndrome. Tous les dons, évidemment, sont les bienvenus. Une association existe et vous pouvez faire donc un don sur le site angelman-afsa.org. Angelman-afsa.org. On compte sur vous. À présent, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Sophie Dupont, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et présidente de la Ligue française contre l'épilepsie.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Dupont.
Bonjour.
Alors avec vous, on va reprendre les bases hein, sur cette maladie. L'épilepsie, c'est quoi très simplement ? Parce que je sais que c'est complexe. C'est pas quelque chose de psychiatrique hein, par contre ? Surtout pas, c'est avant tout une maladie du cerveau, donc une maladie neurologique, et c'est même la deuxième maladie neurologique en fréquence en France et dans le monde. En France, on estime que cela affecte à peu près 600 000 patients.
Et c'est quoi? C'est une dysfonction du cerveau? Un problème d'électricité dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe schématiquement? Je sais que c'est complexe.
Oui, mais... Alors, de façon vraiment très schématique, c'est comme un petit court-circuit au niveau des cellules du cerveau qu'on appelle les neurones, qui vont se mettre un petit peu à hyper-fonctionner. Et globalement, donc, ça ne va pas être très long. Ça va durer quelques secondes à deux minutes. Et puis ensuite, ça va s'arrêter spontanément.
Jimmy ?
On sait qui des hommes ou des femmes sont le plus touchés. Et puis, est-ce que c'est plutôt dès l'enfance qu'on développe la pathologie, avec peut-être plutôt des jeunes, essentiellement ?
Alors, pour une fois, la parité est respectée. Femmes et hommes sont autant touchés. Il y a ensuite un pic de fréquence chez les tout-petits et ensuite une incidence qui est stable et qui redémarre à partir de 60 ans. Donc globalement, le risque de développer une épilepsie est plus important avant l'âge de 1 an et après l'âge de 60 ans, mais ça peut arriver à tout âge.
À 40 ans, on peut développer 40, une épilepsie
50,
du jour au lendemain.
Exactement.
Ouais, d'accord, c'est tout à fait possible.
On peut tous faire de l'épilepsie à tout moment.
Ça fait combien de malades en tout en France, à peu près?
À peu près 600 000.
Ouais, c'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est important. Et du coup, ça fait beaucoup de crises d'épilepsie par jour, hein, je crois.
Alors, ça fait énormément de crises d'épilepsie, mais tous les patients épileptiques ne font pas de crise. On estime qu'à peu près 70% sont équilibrés avec le traitement.
D'accord. Et du coup, on en parlera après, il y a plusieurs formes en fait, hein, d'épilepsie. Mais c'est une maladie, on est d'accord, qui ne disparaît pas avec l'âge. On devient épileptique quand c'est diagnostiqué. On ne guérit pas spontanément.
Alors, on peut parfois guérir spontanément. Ah, il y a des formes dites bénignes, souvent dans l'enfance, qui vont guérir.
Ça, c'est possible, d'accord.
C'est possible.
Et pour un adulte, c'est plus rare, par contre.
C'est plus rare pour un adulte, encore que maintenant, avec certains traitements un peu radicaux, comme par exemple la chirurgie, on peut guérir de l'épilepsie.
Bon, bah, une bonne nouvelle. On n'a pas fini, on va en donner d'autres. Professeur Dupont, on ne fait que commencer cet entretien. Bien sûr, on reste ensemble dans quelques minutes. Nous allons voir un peu plus en détail comment on établit le diagnostic de cette maladie, comment elle se manifeste aussi, car il n'y a pas une, mais des épilepsies. Mais d'abord, je vous propose un peu de musique avec une chanson du chanteur américain Charlie Puth, qui était sortie en 2015. Ça s'appelle Marvin Gaye.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Sophie Dupont, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. Professeur Dupont, une crise d'épilepsie, ça ressemble à quoi? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on voit un peu dans des films, parfois on imagine la personne par terre qui bave, qui convulse. C'est pas toujours ça, je crois. Hein. Ça l'est, mais pas que. Hein.
Ça peut l'être, mais il peut y avoir des formes très très différentes. Il y a globalement deux grands types d'épilepsie. Il y a des épilepsies qu'on appelle partielles ou focales, qui vont partir d'un point bien précis du cerveau. Et puis il y a des épilepsies généralisées où d'emblée, la décharge épileptique va toucher les deux hémisphères, droit et gauche. Les plus fréquentes sont les épilepsies partielles, les épilepsies focales. Et là, les signes vont dépendre de la région de point de départ des crises.
Ça va de quoi à quoi ?
Alors, ça va, par exemple, si ça part de la région du langage, un trouble subi du langage. Si ça part de la région de la motricité, des secousses d'un bras, d'un visage, d'une jambe. Ça part de la région de la mémoire, une impression de déjà vu, déjà vécu, des souvenirs qui reviennent, etc. Et donc ça, forcément, ce n'est pas forcément évocateur d'épilepsie pour tout à chacun. Vous avez raison, le prototype, c'est plutôt dans l'imaginaire, la crise convulsive.
Mmh. Jimmy ?
Et du coup, la crise convulsive généralisée, tout le monde la connaît, le diagnostic est aisé. Mais du coup, dans les autres formes, est-ce qu'il n'y a pas un retard diagnostique ? Est-ce qu'on ne laisse pas traîner des malades un peu, on les sans réel diagnostic ?
Alors, il peut parfois y avoir un retard diagnostique, mais souvent, il y a quand même un enchaînement de signes qui va être assez évocateur d'épilepsie. Puis le fait aussi que finalement, c'est très bref et à début et fin brutal. Donc ça, c'est assez évocateur. Mais je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui débute ses crises d'épilepsie temporale par une sensation qui part de l'estomac et qui remonte, mais parfois aura une fibroscopie gastrique avant d'être vu par le neurologue.
Mmh. Alors, donc, à l'inverse, un peu plus complexe quand même.
Plus complexe. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus surdiagnostiquer et voir de l'épilepsie partout.
Vous avez dit une sensation de déjà vu, moi j'en ai souvent. Ça ne veut pas dire que je fais des crises d'épilepsie.
On peut en avoir de façon tout à fait physiologique, mais généralement c'est vraiment très bref. Si c'est un petit peu plus long, si ça se répète trop souvent, et surtout si c'est suivi par autre chose, une rupture de contact, un comportement anormal, c'est là où ça va tilter et on évoquera l'épilepsie.
Le fait d'avoir eu une crise, une seule crise, enfin une première on va dire, ça ne veut pas dire forcément que la personne est épileptique. On peut avoir une crise par accident, entre guillemets.
Exactement.
C'est possible.
On peut avoir une crise accidentelle, qu'on appelle également situation, dans des conditions un peu extrêmes, par exemple
lors d'une baisse très importante de sucre dans le sang, une baisse très importante de sel dans le sang, ou un sevrage alcoolique, une prise de toxique, etc. Et donc, si on évite le facteur déclenchant, il n'y aura pas de deuxième crise.
Jimmy ?
Est-ce qu'on connaît les causes de l'épilepsie ? Est-ce qu'il y a un caractère héréditaire ou génétique particulier ?
Parfois, mais il faut bien comprendre que le plus souvent, les épilepsies ne sont pas génétiques au sens transmission parent-enfant, ce qu'on appelle les transmissions mendéliennes. Alors, on pense qu'il y a des épilepsies qui sont certainement polygénétiques, c'est-à-dire plusieurs gènes sont impliqués, donc c'est un petit peu... la signature de l'individu, on appelle ça plutôt les épilepsies idiopathiques. Et donc là, souvent, on retrouve dans la famille plusieurs cas d'épilepsie, mais pour autant, il n'y a pas un énorme risque de transmission à la descendance. Et puis, il y a d'autres formes que ces formes supposées polygénétiques. Il y a des formes génétiques pures aussi, hein, qui sont connues.
Quand c'est pas, je vous ai dit, génétique, c'est pas souvent, c'est parfois.
Oui, c'est parfois.
Sinon, c'est quoi alors, si c'est pas génétique? Alors, c'est un accident, une lésion cérébrale, une
n'importe
tumeur?
N'importe quelle lésion, ouais, au niveau du cerveau. Ça peut être une séquelle de traumatisme crânien, d'abcès, une malformation, bien entendu une tumeur. Un accident vasculaire cérébral, c'est une des premières causes d'épilepsie chez le sujet âgé.
Et puis parfois, on n'explique rien.
Parfois, on ne retrouve rien. On ne comprend pas pourquoi un patient, tout à coup, va devenir épileptique.
Vous devez être un peu frustré avec ce type de diagnostic. Il y en a beaucoup quand
ouais,
même.
Ça
a un nom, une épilepsie non sans cause?
Alors, c'est presque 30% hein, qui demeurent sans cause. C'est vrai qu'on est frustré. Et puis, surtout, les patients souvent sont inquiets parce qu'on aime bien être rationnel et savoir pourquoi on a une maladie.
Jimmy ?
Et justement, est-ce qu'on peut identifier certains facteurs de risque? Alors, on ne parle pas des maladies qui vont les déclencher, la séquelle d'AVC avec une petite gâchette qui entraîne de l'épilepsie, mais je ne sais pas, le fait d'être migraineux, par exemple, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous dire, tiens, on a plus de risque que les autres de faire une crise d'épilepsie?
Non, en dehors vraiment des causes avérées d'épilepsie, on n'a pas de facteurs de risque vraiment identifiés. Les seuls facteurs de risque qu'on identifie, c'est ceux de la survenue des crises. Mais ce n'est pas ça qui explique la maladie.
L'apparition de la maladie, oui. Et par contre, vous disiez qu'il y avait beaucoup de cas avant un an, donc chez les tout petits, là, oui. Parfois, c'est parce que l'accouchement s'est mal passé, hein,
ça
je crois.
Peut, ouais. Ça peut, c'est-à-dire qu'un accouchement qui est compliqué avec un défaut d'oxygénation du bébé ou une hémorragie au niveau du cerveau parce que l'extraction a été compliquée, etc., peut se révéler par de l'épilepsie. Alors, c'est quand même de moins en moins le cas dans les pays occidentaux où, globalement, les accouchements se passent quand même de mieux en mieux.
Comment on le fait, le diagnostic? Alors, on n'a pas le temps de détailler complètement, mais c'est compliqué, c'est long. Il faut voir forcément un neurologue ou pas?
Alors, il faut voir un neurologue parce qu'il y a quand même des pièges. Le diagnostic, il est quand même très clinique. C'est-à-dire qu'on va écouter le patient, on va écouter l'entourage qui a vu les crises, qui vont nous raconter ce qu'ils ont vu.
Aujourd'hui, ils doivent venir avec des vidéos même.
Alors, éventuellement, venir avec des vidéos de plus en plus. Et ça nous aide énormément. Et donc, j'encourage vraiment à cela. Et donc, le diagnostic, il est très clinique. Et puis, ensuite, on va s'aider d'examens complémentaires, notamment l'électroencéphalogramme.
Jimmy ?
Et est-ce qu'on fait d'autres examens, justement ? Est-ce que les gens, ce qu'on demande souvent, un scanner ou une IRM, une prise de sang ?
Tout à fait. Alors, les autres examens, c'est pour rechercher la cause, notamment l'imagerie cérébrale. Pareil, si on fait des prélèvements sanguins, c'est pour essayer de rechercher une cause. Mais on n'a pas de marqueur de l'épilepsie, à part d'éventuelles anomalies sur l'électroencéphalogramme. Et c'est pour ça que c'est important quand même de voir un neurologue, parce que à l'inverse, on peut aussi avoir des diagnostics d'épilepsie qui n'en sont pas. Notamment ce qu'on appelle les crises non épileptiques, qui ne sont pas si rares que ça, et où les patients vont être diagnostiqués comme épileptiques, traités comme tels, ça ne marchera pas. C'est normal, ils ne sont pas épileptiques.
Si on voit un neurologue donc, qui diagnostique l'épilepsie, vous avez dit qu'il y avait tout un tas d'examens à passer.
Oui.
En moyenne, vous mettez combien de temps à poser définitivement ce diagnostic?
Alors,
aujourd'hui,
c'est dès la première consultation. Ah, oui. On écoute le patient, on sait que c'est ça.
Merci, professeur Dupont. Nous allons poursuivre cette discussion dans quelques minutes. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe aux difficultés dans la vie quotidienne pour les patients épileptiques. Difficile parfois de trouver un travail et même chez les plus jeunes, l'intégration à l'école n'est pas toujours facile. Pourtant, il existe des traitements, on va les détailler aussi. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Sophie Dupont, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. Professeur Dupont, il y a quelques minutes, on a parlé des symptômes de l'épilepsie, donc de son diagnostic. Du coup, on imagine que, au vu des symptômes, c'est quand même une pathologie qui a un fort impact négatif, j'imagine, sur la vie quotidienne. Notamment, je crois que le taux de suicide, alors je parle tout de suite des choses les plus lourdes, mais le taux de suicide parmi ces patients est plus élevé que la moyenne.
Effectivement. C'est une maladie d'une part assez ostracisante qui encore a un impact assez péjoratif hein, dans le grand public.
Même en 2020. Hein,
c'est... Même en 2020. Hein, et ça demeure. Et c'est, on doit lutter contre ça et bien faire connaître la maladie. Et c'est important, du coup, de venir vous parler aujourd'hui. Et puis également, pour le patient, ce qui est très compliqué, c'est que c'est une maladie qui n'est pas prévisible, ni dans son évolution, ni dans le timing de survenue des crises. La crise, elle peut survenir un peu n'importe comment, n'importe quand. Et ça, c'est quand même assez angoissant dans une vie quotidienne.
J'imagine. Jimmy ?
Est-ce que l'accès à l'emploi des patients qui font des crises d'épilepsie est plus difficile que les autres ?
Oui, tout à fait. D'une part, il y a quand même des professions qui sont contre-indiquées. L'armée, pilote de ligne, etc.
Ça, bon, ça... vous ne revenez pas dessus. C'est
non, ça peut se comprendre.
Ouais, bien sûr.
Voilà, tout à fait. Mais d'autre part, d'autres professions peuvent s'avérer difficiles, notamment celles avec des dettes de sommeil, des horaires irréguliers, parce qu'on en reparlera, je pense, mais l'hygiène de vie fait partie des traitements de l'épilepsie. Et puis, parce qu'il y a cet impact négatif dans la tête des gens, et que souvent, les patients n'osent pas dire qu'ils sont épileptiques au moment de l'embauche.
Mais est-ce qu'ils doivent le dire ? Parce que c'est la question, est-ce qu'ils ont l'obligation d'informer l'employeur ?
Ils ne sont pas tenus, et ça, ce n'est pas propre à l'épilepsie. Mmh. Hein, aucun salarié au moment de l'embauche.
C'est vrai qu'on ne demande pas si on est diabétique, asthmatique.
Ouais. Voilà. Par contre, c'est bien de le dire à la médecine du travail pour vérifier quand même que le poste de travail est bien en adéquation et qu'il n'y a pas de dangerosité pour le patient ou pour ses collègues en cas de survenue d'une crise d'épilepsie.
Mais si un jour on fait une crise sur son lieu de travail, bon, là, forcément, tout le monde est au courant. Donc,
c'est, dans ces cas-là,
vous leur conseillez de le dire ou pas ?
Ah, moi, je conseille toujours de le dire au médecin du travail. Au médecin du travail, il est là pour le salarié, pour la défense du salarié, et il est là pour adapter, s'il le faut, le poste de travail.
Mais du coup, parmi ces patients, il y a plus de chômage,
Il y a plus de chômage, et puis aussi, en fait, il peut y avoir aussi moins d'accès à des études supérieures, à parfois niveau d'intelligence est égal. La scolarisation est parfois assez difficile pour les enfants épileptiques.
Et justement, même les patients enfants souffrent parfois de discrimination, notamment à l'école. Pour en témoigner, je vous propose d'écouter Delphine Danecker, présidente de l'association Épilepsie France et maman de Dana. Dana, elle a aujourd'hui 18 ans, mais souffre d'épilepsie depuis l'âge de 2 ans. Et ça n'a pas toujours été facile, on écoute sa maman.
Tout est plus compliqué, voilà. On n'a pas dormi pendant des années avec mon mari parce qu'il y avait toujours le babyphone en cas de crise, parce que Dana faisait des crises, essentiellement des crises nocturnes. On était debout chaque fois que Dana bougeait un peu bizarrement dans son lit. Donc oui, c'est une vigilance de tout instant. Comme c'est une maladie un peu invisible, on m'avait dit, je me suis laissée un peu influencer par mon entourage. Il me disait de ne pas le dire à l'école parce que comme ça se voyait pas, ben, comme ça elle ne serait pas stigmatisée ni mise de côté. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'était une grosse erreur puisque Dana a fait une crise en classe de maternelle et ça a vraiment secoué tout le personnel et toute la classe. Tout s'est un peu compliqué à l'arrivée en CP, qui fait que Dana a été écartée en fait, de plein d'activités, puisqu'on ne pouvait pas tout le temps accompagner ma fille chaque fois qu'il sortait de la classe. Dana était souvent mise dans une autre classe quand sa classe à elle sortait pour aller à la bibliothèque ou à la piscine. Ou voilà.
Alors bon, donc qu'est-ce qu'on peut... Ça, ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage, c'est quelque chose que vous entendez fréquemment en consultation ?
Oui, c'est un témoignage édifiant et souvent les patients, quand ils ont démarré leur épilepsie dans l'enfance, ont toujours un vécu quand même assez douloureux de la période scolaire, notamment s'ils faisaient des crises à l'école.
Bien sûr. Jimmy ?
Qu'est-ce qu'on doit faire face à une crise d'épilepsie, une crise généralisée ? Est-ce qu'il y a quelques gestes qu'on peut donner aux gens ? Par exemple, souvent on voit dans des mauvaises séries ou des gens qui ont ce réflexe de mettre quelque chose dans la bouche, la langue. Est-ce qu'il y a deux, trois gestes simples que les gens peuvent faire ?
Alors, vous avez raison, c'est vraiment le mauvais réflexe. Si c'est une crise convulsive, la première chose, c'est d'essayer de protéger le patient, écarter tout objet dangereux à côté de lui, lui mettre un gilet, quelque chose sous la tête, enlever les lunettes. Enfin, c'est du bon sens. Hein.
Et puis, une fois pour ne pas qu'il se blesse,
pour
en fait.
Pour ne pas qu'il se blesse, tout simplement. Une fois que les convulsions ont cessé, il faut...
Parce qu'elles cessent, les convulsions, elles ne vont pas continuer indéfiniment.
Elles vont cesser spontanément. Il faut quand même, si jamais les convulsions durent trop longtemps, c'est-à-dire au-delà de 5 minutes, là, il faut appeler immédiatement le SAMU, les pompiers, parce qu'il y a des médicaments à donner pour faire cesser au plus vite la crise. Mais habituellement, au bout de 2 minutes, ça s'arrête. Hein. Et donc, une fois que c'est arrêté, il faut mettre le patient sur le côté, dans ce qu'on appelle la position latérale de sécurité, pour l'aider en fait à mieux respirer. Et surtout, vous aviez raison, ne rien introduire dans la bouche. on ne peut pas avaler sa langue, c'est
mais
pas possible.
Alors pourquoi on entend ça? C'est fou, parce que c'est vraiment une idée reçue qu'elle a dent dure. Hein.
Tout à fait. Alors tout simplement parce que souvent, par contre, les patients épileptiques qui convulsent, ils vont se mordre la langue très durement parce qu'ils vont, ils vont serrer les dents sur la langue. Mais pour autant, la langue, on ne l'avale pas, quoi qu'il arrive.
Bon, ça c'est bien. Alors, on va peut-être passer quand même au traitement maintenant de cette maladie. Je sais qu'il y en a plusieurs, c'est assez complexe. On va essayer quand même de faire un petit tour d'horizon. D'abord, il y a des médicaments, des antiépileptiques, et il y en a beaucoup. C'est plutôt une bonne chose. Mais...
c'est une excellente chose.
Et il y en a combien
Alors, on en a à peu près 25.
Ah oui, quand même.
Donc, c'est vrai que quand on diagnostique une épilepsie, on débute avec un médicament qu'on choisit en fonction du type d'épilepsie, qu'on choisit en fonction du patient, si c'est une jeune femme, désir de contraception, désir de grossesse, en fonction également du terrain, notamment anxieux, dépressif. Il peut y avoir des médicaments qui peuvent aggraver la dépression, donc on ne les donnera pas. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le choix du médicament. Et donc, ce qui est bien, c'est que comme on a beaucoup de médicaments, on peut faire un peu le médicament pour le patient.
Très bien. Jimmy ?
Et on est d'accord qu'on ne traite pas forcément une première crise d'épilepsie. Mais j'ai le souvenir, aux urgences, première crise d'épilepsie, le neurologue nous dit on ne met pas de traitement, on attend et on voit éventuellement ce qui se passe par la suite.
Alors, tout à fait, on ne traite pas forcément une première crise d'épilepsie. Les cas où en fait on va traiter dès la première crise d'épilepsie sont les cas où on identifie de gros risques de récidive, notamment en fait généralement des anomalies sur l'électroencéphalogramme et puis une cause avérée, une lésion sur l'IRM cérébral responsable de la première crise, ça donnera forcément à un moment une deuxième crise. Mais sinon, si un patient fait une première crise, que l'IRM est normal et que l'électroencéphalogramme est normal, on ne traitera pas.
Et alors, ces médicaments, donc, j'ai compris, il y en a plusieurs, vous les choisissez en fonction du type d'épilepsie. Ils font quoi dans le cerveau? Ils le calment, en fait, parce que vous avez expliqué que c'était comme une hyper-excitabilité. Donc, on met le cerveau au repos un peu, c'est ça
un
qu'ils
petit
font
peu, ouais. Alors oui, c'est-à-dire qu'on va en fait avoir deux grands types de médicaments. Des médicaments qui vont baisser un peu l'excitation ou des médicaments qui vont augmenter l'inhibition, donc le contraire, voire des médicaments qui font les deux. Alors ça, de façon permanente, hein, donc pas seulement au moment des crises.
Jimmy ?
Et ce genre de traitement, donc c'est des traitements au long cours qu'on n'arrête jamais, ou est-ce qu'on a peut-être l'idée de diminuer des doses et puis peut-être un jour de l'arrêter, ou comme le diabète, une fois que vous êtes diabétique, c'est pour la vie?
Non, parfois on peut arrêter les traitements. Il y a des épilepsies notamment qui débutent dans l'enfance, dans l'adolescence et qui vont s'éteindre en vieillissant. Et généralement, quand il n'y a pas de cause avérée et si les électroencéphalogrammes de contrôle sont normaux, au bout de 2-3 ans de traitement, on peut vraiment aller à l'arrêt d'un traitement. On peut guérir d'une épilepsie.
Vous l'avez un tout petit peu amorcé tout à l'heure, vous parliez de la grossesse, parce qu'évidemment, les femmes épileptiques, elles sont comme les autres, elles ont souvent envie d'avoir des enfants. On a beaucoup parlé des antiépileptiques, de la dépakine et des malformations qu'elles ont provoquées chez des femmes qui n'étaient pas au courant de ces effets secondaires, même si on les connaissait. On ne va pas rentrer du tout dans le débat aujourd'hui, mais une femme épileptique aujourd'hui, vous avez vraiment des moyens médicamenteux de lui donner un médicament, parce qu'il n'est pas question de les arrêter, qui ne va pas être dangereux pour son bébé?
Alors actuellement, on a quand même des médicaments dont on sait qu'a priori, il n'augmente pas le risque de malformation fœtale, parce qu'on a des gros registres de grossesse qui ont été mis en place à la fin des années 90, et maintenant on a un recul sur à peu près 80 000 patientes rentrées dans ces registres. Donc, pour certains médicaments, on a des données. On sait qu'a priori, il n'augmente pas le taux de malformation par rapport à la population contrôle. Et il y a des médicaments plus récents pour lesquels on n'a pas de données, et donc on les met pas pendant la grossesse en principe de précaution.
Mais elles ne doivent pas arrêter leurs médicaments en tout cas.
Non. Et surtout, si vraiment je peux dire quelque chose, c'est qu'une grossesse, ça se programme.
C'est une patiente épileptique, encore plus. Mais pour tout le monde.
Encore plus. Pour toute femme, mais encore plus pour une patiente épileptique.
Jimmy ?
Est-ce que les traitements sont efficaces ? Est-ce qu'on arrive à vraiment traiter ou stabiliser la maladie chez tout le monde ?
Alors, les médicaments ne sont pas efficaces chez tout le monde, puisqu'il y a 30% des patients qui continuent malgré 1, 2, 3, parfois 4 médicaments à faire des crises. Et on sait aussi que les médicaments, c'est des médicaments anti-crise. Ils ne jouent pas sur l'évolution de la maladie même. Donc, c'est bien d'en avoir autant. Mais on est vraiment dans l'attente d'en avoir encore plus.
Mais ces médicaments, donc, ils ne fonctionnent pas chez tout le monde. Il y a des patients résistants et parfois, donc, il y a la solution de la chirurgie. Qu'est-ce que vous proposez aux patients donc, résistants aux médicaments? La chirurgie, elle consiste en quoi? Moi, rien que l'idée d'aller dans le cerveau, ça me fait toujours un peu peur. Mais...
Alors, il faut pas. Alors, la chirurgie, d'abord, elle est quand même pas pour tout le monde. Elle est pour les patients dont on parlait qui ont une épilepsie focale, partielle, qui part vraiment d'un point bien précis
que vous avez identifié.
A identifié. Et la deuxième condition, c'est que la zone d'où ça part ne doit pas être trop fonctionnelle. Tout à l'heure, on parlait langage-motricité. C'est clairement des zones qu'on n'ira jamais enlever.
Mmh. Mais on a des zones dans le cerveau qui ne servent à rien, alors, finalement.
Alors, non. On a des zones dans le cerveau. Enfin, la plupart
ça dépend des
zones,
gens. Peut-être qu'il y a des zones qui ne servent à rien. Moi, elles servent bien.
Demandez ça à ma femme, elle vous en donnera plein. Des zones qui ne servent à rien. Elle en là.
Alors, chez les femmes, toutes les zones servent.
Non, mais d'accord, c'est ça. Mais du coup, côté, donc il y a des zones moins importantes en tout cas.
Voilà, mais il y a quand même des zones moins importantes. Et puis surtout, il y a des zones, par exemple, si on prend l'exemple de la mémoire, l'existence même de l'épilepsie affecte déjà la fonction. Donc on ne va pas tellement aggraver les choses en enlevant la zone en question.
Et vous enlevez un petit morceau du cerveau.
On enlève
quoi, c'est ça,
un petit morceau du cerveau qu'on a identifié comme étant le point de départ des crises. Tout à fait, c'est vraiment de la chirurgie classique.
Et quand c'est bien identifié et que vous retirez, ça marche bien?
Alors ça marche avec... Alors c'est pas la guérison à 100%. Hein. Par exemple, dans l'épilepsie temporale, c'est à peu près 70% de guérison, ce qui est pas si mal.
Ouais, c'est vrai. Jimmy?
Alors il existe aussi des implants. Je dois vous avouer que je ne savais pas que ça existait. Je n'ai jamais vu aucun patient avec. Apparemment avec un petit stimulateur, notamment d'un nerf crânien. Comment ça marche?
Alors donc, ça s'appelle la stimulation du nerf vague. On met un petit stimulateur sur un nerf qui passe dans le cou, qui s'appelle le nerf vague. On ne sait pas tellement très bien comment ça marche, pour être honnête avec vous. Le nerf vague...
Parfois, on fait des choses de manière un peu empirique en santé aussi.
Ben oui, le nerf vague, on le sait quand même, hein, envoie en fait des rameaux récurrents qui vont aller projeter sur le cerveau et inhiber le cerveau.
Juste expliquez-nous, le nerf vague, il passe où exactement?
Alors, le nerf vague, il naît en fait au niveau d'une partie basse du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral.
Donc à l'arrière de la tête plutôt.
À l'arrière de la tête, il va ensuite sortir du crâne. Il va cheminer dans le cou, puis après
il sort
dans le thorax.
Il sort pas de votre tête, hein, rassurez-vous.
Non,
il
non,
sort
non,
du crâne,
il va,
mais
voilà,
dans la boîte crânienne.
Il sort de la boîte crânienne, mais il va dans le cou tout de suite. Voilà. Et c'est dans le cou qu'on va aller le stimuler, parce que c'est dans le cou qu'il envoie en fait des rameaux qui repartent vers le cerveau. Donc on a comme une petite puce électronique, comme un pacemaker. On met nous-mêmes avec un ordinateur les paramètres de stimulation. Et donc, on envoie en fait de façon très fréquente des stimulations sur le nerf vague.
Et alors, vous ne savez pas comment ça marche, mais moi, j'ai déjà rencontré des patients qui étaient porteurs de ce type d'implant. Ça peut être un peu spectaculaire quand même. Ça marche bien chez certains.
Ça peut, chez certains, très bien marcher et diminuer de façon assez substantielle la fréquence des crises. Ça ne guérisse pas. Hein.
Non, bien sûr, ouais. Mais ils peuvent récupérer un quotidien plus confortable.
Oui, puis surtout, on peut parfois diminuer le nombre de médicaments, ce qui est bien aussi.
Jimmy ?
L'hygiène de vie est primordiale chez les patients épileptiques. J'ai le souvenir d'un patient qui est éboueur, il travaille en horaire décalé, 4 heures du matin, et je le vois de temps en temps faire des crises. Il me dit, quand je ne dors pas assez, je fais des crises.
Effectivement, l'hygiène de vie est importante. Et là encore, vous avez raison, c'est surtout les écarts de sommeil, les dettes de sommeil qui vont être les plus pourvoyeurs de crises. Donc, on recommande généralement d'avoir un sommeil assez régulier, de ne pas boire trop d'alcool, trop de café, etc. On n'est pas non plus dans des consignes de vie monastique. Le but, c'est quand même d'avoir une vie agréable, tout en faisant un petit peu attention.
Allez, on va conclure avec une note positive. Une fois qu'on a donc ces traitements, quand ils fonctionnent, que ce soit les médicaments, la chirurgie, l'implant ou autre, un patient épileptique aujourd'hui, la majorité, on va dire, de vos patients épileptiques aujourd'hui, équilibrés, peuvent avoir une vie normale, une espérance de vie normale?
Dans 70% des cas, tout à fait, pas de crise. Alors, au dépend souvent d'un traitement quand même, qui peut avoir des effets secondaires, mais des patients qui ont un travail qui leur plaît, des femmes qui peuvent avoir des enfants et des enfants qui peuvent aller bien.
Merci beaucoup, professeur Dupont, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, l'épilepsie, cette maladie complexe, nous paraît moins obscure. Et on a vu qu'il y a même un arsenal thérapeutique important pour ces malades. Merci encore d'être venu nous parler de tout ça.
Europe.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. On va parler de l'hépatite C, une maladie du foie causée par un virus. On fera le point sur les moyens de la prévenir et même de la guérir. Car oui, actuellement, il est possible de la soigner. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle du virus de l'hépatite C. Savez-vous ce qu'est précisément cette maladie du foie? Comment ce virus se transmet? Peut-on vraiment en guérir? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
C'est une MST aussi.
L'hépatite C, c'est aussi une infection.
Ça se transmet lors de rapports sexuels, il me semble. Sinon je confonds avec l'hépatite A et l'hépatite B. Les petites C, ça touche le pénis? C'est une infection des glandes génitales.
Hépatite, peut-être le foie.
C'est pas lié au fait que tu boives trop d'alcool.
Après, je sais que quand on est atteint du foie, on a le teint qui devient jaune.
Oui, c'est une infection, je pense que ça se voit. Il y a peut-être du pus ou des rougeurs, des boutons.
Je pense que ça touche, par exemple, les toxicos avec les seringues. Ou...
Est-ce que ça soigne? Je sais pas.
Je sais pas, j'ai fait les vaccins pour les hépatites, mais je me rappelle plus si c'est A, B ou C.
Donc on peut se faire vacciner contre l'hépatite C, mais c'est pas obligatoire.
Oui, on peut en mourir à partir du moment où ça le... On ne le soigne pas.
Alors Jimmy, on fait un point sur l'hépatite C à présent. C'est quoi précisément ce virus donc, qui provoque cette maladie? Comment ça se transmet?
Alors l'hépatite C a été découvert en 1989. Donc c'est assez récent finalement. C'est un virus qui se transmet...
Vous êtes bon en histoire. Hein,
oui, j'adore ces petits d'histoire. ce virus se transmet essentiellement par le sang. C'est pourquoi les usagers de drogue sont les plus à risque. Alors ce n'est plus le cas en France, mais pendant longtemps, les personnes ayant bénéficié d'une transfusion sanguine avant les années 90 avaient également un risque d'être contaminées par ce virus de l'hépatite C. Dans certains cas, le virus peut se transmettre par voie sexuelle, surtout s'il y a un saignement important. Mmh. C'est pourquoi l'usage de préservatifs est très important.
Et le problème, Jimmy, je crois que c'est qu'il n'y a pas forcément de symptômes quand on est contaminé après la contamination. Ça peut passer un peu inaperçu, quoi.
Exactement. Comme bon nombre de virus, la contamination passe souvent inaperçue durant plusieurs années. Pendant ce temps, le virus va se répliquer, se dupliquer et puis s'attaquer au foie, entraîner ce qu'on appelle une hépatite. Et puis, au bout de 10, 20, 30 ans, s'il n'est pas dépisté, il peut entraîner une cirrhose. De la même façon qu'on peut avoir une cirrhose lorsqu'on boit trop d'alcool ou avec le foie gras. Et puis le foie souffre, ce qui peut aboutir à l'insuffisance hépatocellulaire, au cancer du foie ou à une cirrhose, comme je vous l'ai dit.
D'accord, cirrhose de foie, hein, plusieurs fois même, on peut l'avoir,
c'est
la cirrhose.
Marteler le...
C'est ça, on a bien compris. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de l'hépatite C, un traitement existe. Et justement, je vous propose d'écouter le professeur Vincent Leroy, chef de service hépatologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, interrogé par Benjamin Lévesque.
C'est vrai qu'entre 1990 et puis 2014, on a eu des traitements antiviraux qui ont été développés, mais qui étaient des traitements très lourd à base d'interférons qui donnait beaucoup d'effets secondaires, qui était capable de guérir un certain nombre de patients, pratiquement 50%, mais à nouveau au prix de traitements prolongés et difficiles à tolérer. Et puis, d'énormes progrès ont été effectués dans la compréhension du virus, des mécanismes de multiplication du virus, et ceci a permis de développer des nouveaux antiviraux, dits action directe, qui sont disponibles maintenant en France depuis 2014 et qui peuvent maintenant être prescrits à l'ensemble des patients, qui sont des médicaments que l'on donne en comprimé, par voie orale, pour des durées très courtes, de 8 à 12 semaines dans la majorité des cas, avec une tolérance qui est absolument excellente et une efficacité qui est vraiment remarquable, puisque 98 à 99% des patients peuvent guérir après un premier traitement de ce type.
Une très bonne nouvelle donc, Jimmy. S'il existe un traitement très efficace, il faut quand même rappeler que le dépistage reste primordial. Hein.
Oui, puisque près de 100 000 Français ignorent leur infection, donc il est très important de se faire dépister, soit en laboratoire via les TRODS, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui sont réalisés notamment par des associations, le centre AIDS, HF Prévention, etc. Et puis, même si vous avez déjà eu l'hépatite C, même après avoir guéri, le corps n'est pas immunisé, donc il est possible d'être de nouveau contaminé en cas d'exposition à risque. Donc il faut se protéger, mettez des préservatifs.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo avec notre sexologue Catherine Blanc. On va parler de jeux coquins et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va se faire du bien quelques minutes en musique. Sur Europe 1, on adore ça, on écoute Jean-Louis Aubert, ça s'appelle Du Bonheur.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle rentre dans ce studio, c'est Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de l'émission. Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on a une question de Florence, question que je vais vous lire tout de suite. Une amie m'avait conseillé des objets coquins pour pimenter la sexualité dans mon couple. J'ai osé sauter le pas et on est offert à mon compagnon que cela a amusé. Pourtant, devant la boîte, nous nous sommes retrouvés bien embarrassés. Sommes-nous trop coincé. Alors Catherine, d'abord, des objets coquins pour pimenter sa vie de couple, vous en pensez quoi sur le principe, on va dire, général?
Alors, d'abord, la sexualité, c'est pour s'amuser. Donc, c'est pour s'amuser.
Donc, pourquoi
donc,
pas
on peut s'amuser avec tout ce que l'on veut. On peut en faire l'acquisition, comme on peut les fabriquer, comme on peut s'amuser à tous les scénarios du monde, à tous les scénarios du monde. Liberté, liberté chérie. Là, il n'y a aucun sujet. C'est vraiment le principe même. Quand on était petit, on jouait au docteur. Ça, c'était pour découvrir nos corps, pour découvrir nos spécificités, nos excitations, etc.
Et on peut toujours jouer au docteur.
Et on peut jouer au docteur. faire très améliorer une fois qu'on est adulte. Donc jusque-là, tout va bien. Jimmy, évidemment.
Il est déjà docteur, donc il ne peut pas jouer.
Oui, moi, je ne joue pas au docteur. Lui, il en a fait le docteur, je rassure ma femme, mais dans des façons très conventionnelles.
Il dit chérie, je vais jouer au docteur aujourd'hui.
En fait, voilà. Il part juste en consultation.
C'est bon. Ça. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre jouer au docteur et partir en consultation. Voilà. Exactement.
Donc, sur le principe, aucun problème.
Aucun problème.
C'est vraiment la meilleure chose à faire, entre guillemets, pour pimenter son couple. Parce que c'est vrai qu'on arrive parfois, certains couples arrivent à des stades où ils se disent, bon, je m'ennuie un peu, c'est la routine, mais les objets sexuels, c'est une solution.
Alors, en fait, c'est pas que c'est une solution. C'est qu'à partir du moment où on se dit, c'est la routine, donc allons chercher des objets pour repimenter, relancer la mécanique de notre relation, ça veut donc dire qu'on a perdu un peu en créativité. Donc, on va chercher vers l'extérieur quelque chose pour justement être confronté à cette nouveauté qui va nous ressolliciter notre créativité ou justifier d'une créativité. Parce que c'est pas facile de dire à l'autre, tiens, si on jouait à ça, ouais, ou tiens, ouais, si on faisait ça. Tandis que quand c'est le jeu qu'on a introduit, non pas dans le corps nécessairement, mais introduit dans la relation, mmh, eh bien, de fait, ça va obliger à un positionnement différent.
10 000 docteurs.
Est-ce que c'est l'objet en lui-même qui peut mettre mal à l'aise ou le fait de l'utiliser avec son ou sa partenaire qui peut être un peu perturbant, notamment la première fois?
Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, souvent, on m'a proposé des choses en questionnement. Est-ce que ça, c'est intéressant, pas intéressant, etc. Et d'ailleurs, je n'aime pas trop faire de la pub, mais il y a une boîte qui a fait un truc qui s'appelle les Jeux Polissons, lesjeuxpolissons.com, que je vous invite à voir, qui sont des boîtes assez sympas avec des petits parcours autour d'un sujet de la sexualité et assez bien fait, avec beaucoup de psychologie. Mais la question, c'est toujours, une fois qu'on a les objets, une fois qu'on a un peu comme la boîte de Cluedo, bien, il y a une règle du jeu et c'est comment on joue avec. Et en fait, quelle que soit la bienveillance des gens qui proposent, là, on est sorti dans ce que je dis là, on est sorti du sex shop classique, mmh, c'est vraiment plutôt très ludique, mais de fait, on ne peut pas donner le mode d'emploi complètement. Il va falloir avoir son propre mode d'emploi. Il va falloir donc se révéler soi-même, il va falloir jouer avec la plume, le loup, et c'est pas simplement de le mettre ou de faire une petite caresse qui fait l'érotisation si on ne raconte pas une histoire.
Parce qu'on perd un peu cette capacité à jouer aussi en grandissant.
C'est ça. C'est-à-dire que quand on était enfant, on pouvait avec trois bâtons dire que c'était des petits personnages et on les faisait se parler, s'embrasser, on mettait les doigts comme ça, on fait et tout ça voulait dire des choses. Quand on est grand,
on a l'air un peu con. Hein,
on a le sentiment que c'est con. C'est-à-dire jouer est con, comme si, et particulièrement d'ailleurs, on pourrait dire, dans notre culture française, jouer, c'est con. On doit être intelligent, on doit réfléchir, on doit élaborer, mais jouer, c'est con. Alors que, par exemple, vous allez voir certains pays, par exemple les États-Unis, les Américains, vous les mettez dans un truc à Disney, eh bien, ils jouent comme s'ils avaient 14 ans, sans aucun problème, alors que nous avons notre posture d'adulte. Et elle nous dessert parfois, parce que nous ne nous permettons pas d'aller dans le monde du ludique.
Jimmy ?
Peut-être commencer avec un petit sextoy, un petit jouet, pas tout de suite le gros godemichet. Voilà, il faut peut-être y aller par étapes.
Là, apparemment, elle a acheté la boxe, donc peut-être qu'il fallait commencer par un petit truc, c'est ça, et
peut-être,
pas...
peut-être,
mais
sympa, hein.
voilà, exactement. Mais même une plume, je vous assure, je vous mets au défi de trouver le moyen d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous allez faire un pique-nique et que vous attrapez une petite herbe et que vous faites des petits câlins, des petits mamours discretos pendant que vos enfants sont en train de jouer au ballon à votre femme, etc., qui va faire haha et qui va vous faire un clin d'œil, qui va amener à l'érotisation éventuellement du soir, c'est une chose. Mais quand vous êtes là dans un lit et que tout d'un coup, tining, vous sortez la plume, on en fait quoi?
Oui, on la met c'est, où oui. C'est... Non, mais vous avez raison.
Oui, non, je ne veux pas savoir. Mais... voilà, c'est compliqué. Et en fait, si c'est déjà...
Ça ne veut pas dire qu'on est coincé, c'est normal.
Mais bien sûr, parce que c'est pas parce que... C'est... Vous imaginez si c'est déjà compliqué avec une plume, alors dès lors que ça ressemble à un pénis, dès lors que ça ressemble ou à rien et on se dit ça sert à quoi, eh bien effectivement, ça nous fait nous penser assez gauche en fait. Et à part un bon fou rire, ce qui est déjà le début de l'orgasme, c'est pas toujours très aisé.
Merci beaucoup Catherine, voilà, pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, vous n'avez d'autre choix que de rester avec nous, car vous le savez, le vendredi, l'équipe est sauvage est en public. Mais en plus, l'équipe est sauvage est surtout en cadmérade aujourd'hui, avec qui plus est Claudia Tagbo. Autant vous dire que ça va faire beaucoup de bruit.
Un programme très sympa Mathieu, comme tous les jours, on va écouter ça avec grand plaisir et vous aussi, restez sur Europe 1.